Chant 13e. Nessus, ne touchez pas encore l'autre rivage, quand nous pénétrions dans un bois tout sauvage, et qui ne paraissait marqué d'aucun sentier. La couleur du feuillage était sombre et foncée. Chaque branche de nœuds, d'épines hérissées, portait au lieu de fruits un poison meurtrier. Ils n'ont pas de forêt si profonde ni si rude, les animaux qui vont chercher les solitudes, non loin de la saisine et de ses bords ombreux. C'est là que font leur nid ces monstres, les harpies, qui chassèrent jadis les strophades fleuries, les Troyens effrayés de leur présage affreux. On peut les reconnaître à leurs ailes énormes, à leur col, à leur ventre, à leurs serres difformes. Sur ces arbres hideux, elles poussent des cris. Et mon bon maître, il faut tout d'abord te l'apprendre. Au deuxième degré, nous venons de descendre. Il nous faudra rester sous ces tristes abris, jusqu'au seuil plus horrible où commencent les sables. Regarde, tu verras des choses effroyables, et tu croiras peut-être à tout ce que j'ai dit. Déjà de tous côtés, l'air de plainte résonne. J'écoutais, je cherchais, je ne voyais personne, et ce bruit me faisait m'arrêter, interdit. Il crut que je croyais que ces cris ineffables retentissaient, poussés par eux des ombres coupables qui se cachaient de nous dans le branchage épais. Et dans cette croyance, il me dit, « Si tu cueilles un rameau seulement au milieu de ces feuilles, tu verras tes pensées étrangement trompées. » Moi, la main étendue en avant, je me penche et détache d'un arbre une petite branche. Le tronc crie aussitôt, « Ah, pourquoi m'arracher ?» Tandis que d'un sang noir, l'écorce se colore. « Pourquoi me déchirer ?» répète-t-il encore. « Oh, cruel, et ton cœur est-il donc de rocher ?» Nous fûmes autrefois des hommes, tes semblables, et plus que les serpents, fussions-nous méprisables. Tu devrais être encore pour nous compatissant. Ainsi qu'un tison vert qu'on présente à la flamme, tandis que sous le vent un bout pétit et brame, la sève à l'autre bout dégoûte en gémissant. Ainsi tout à la fois et le sang et la plainte s'échappaient de ce tronc, et comme pris de crainte, je laissais de mes mains retomber le rameau. Mon sage répondit, « Ô pauvre âme blessée, s'il eût pu tout d'abord admettre en sa pensée ces tourments dont mes vers lui faisaient le tableau, il n'aurait pas sur toi porté sa main cruelle. Mais cette étrangeté d'une douleur réelle m'a fait lui conseiller un coup dont je gémis. Va, dis-lui qui tu fus, et sachant ton histoire en échange, il pourra rafraîchir ta mémoire dans ce monde où pour lui le retour est permis. Puis je me tairai après ta parole engageante, répondit l'arbre, et sois votre oreille indulgente si je m'oubliais trop à vous entretenir. Ami de Frédéric, j'ai tenu sur la terre les deux clés de son cœur, et d'une main légère, si douce les tourner, pour fermer, pour ouvrir, que personne après moi n'approchait de son âme. Honneur dont j'étais fier, de mon zèle, la flamme me faisait oublier, dormir et respirer. Mais cette courtisane, odieuse et funeste, à l'œil louche et vénal, cette commune peste, qu'au palais des Césars on vit toujours errer. Contre moi dans les cœurs sema la haine injuste, cette haine alluma la haine aussi d'Auguste, et mes riants honneurs se changèrent en deuil. Mon âme à ce moment se dégoûta du monde, je crus fuir dans la mort cette douleur profonde, et m'ouvrit innocent un coupable cercueil. Par ces tendres rameaux, jamais je vous le jure, je n'ai brisé le nœud de cette foi si pure, que j'ai donnée au prince illustre et respecté. Et si l'un de vous deux sur la terre remonte, qu'il relève mon nom de cette injuste honte, car il gît sous le coup que l'envie a porté. Le poète attendit un instant en silence. « Si tu veux lui parler, dit-il, l'heure s'avance, satisfait sans tarder ta curiosité. Ah, s'il est une chose encore que j'ignore, parle toi-même, dis-je, et l'interroge encore, car moi je ne pourrai tant je suis attristé. Virgile alors reprit. Si de retour sur terre, cet homme dignement exauce ta prière, esprit captif, veux-tu de même l'obliger? Dis-nous comment il se fait que les âmes coupables se peuvent enfermer dans ces nœuds misérables, et nul jamais ne peut s'en dégager. Alors le tronc souffla bruyamment, souffle étrange, cette haleine exhalée en paroles se change. Je vais à votre vœu répondre en peu de mots. L'âme, quand elle quitte en sa fureur extrême le corps dont elle s'est arrachée elle-même, choit au septième cercle où la plonge Minos. Elle tombe en ce bois, dans tel lieu, dans tel autre, et tombée, le germe ainsi qu'un grain d'épeautre, dans le premier endroit où la jette le sort. Sa tige croît, bientôt c'est un arbre sauvage, dont la harpie accourt dévorer le feuillage, et l'arbre souffre et geint sous l'oiseau qui le mord. Un jour nous chercherons nos corps comme les autres, mais nous ne pourrons pas nous revêtir des nôtres pour expier le tort de les avoir perdus. Il faudra les traîner ici dans ce bois sombre, nous-mêmes, jusqu'à l'arbre où soupire notre ombre. Et là, triste lambeau, nous les verrons pendus. Nous écoutions encore cette âme, tronc sauvage, croyant qu'elle voulait en dire davantage, quand nous fûmes surpris par un bruit effrayant. Tel un chasseur distrait entend à l'improviste un sanglier qui vient et les chiens sur sa piste, le branchage qui craque et la meute aboyant. Sur la gauche, voilà que deux ombres sanglantes, le corps nu dépouillé, s'enfuyaient haletantes à travers les rameaux et les ronces brisées. Le premier s'écriait « Viens, mort, viens tout de suite !» L'autre, qui lui semblait ne pas fuir assez vite, criait « L'anneau, tes pieds furent moins avisés au combat de ta peau, la terrible bataille !» Mais le souffle lui manque et dans une broussaille, je le vis tout à coup tomber et se cacher. Derrière eux, la forêt de chiennes était pleine, noire, et qui courait à vide, hors d'haleine, comme des lévriers que l'on vient de lâcher. Et tout droit au buisson, sur l'ombre infortunée, se jette à belles dents cette meute acharnée, et la met en lambeaux qu'elle emporte en hurlant. Mon guide alors me prend par la main et me mène au buisson qui poussait aussi sa plainte vaine, tout mutilé lui-même avec l'ombre et sanglant. Jacques de Saint-André, quel espoir inutile t'inspirait de venir me prendre pour asile, disait-il. De tes torts ne suis-je pas innocent? Mon maître vint à lui. Pauvre ombre qui murmure ton nom, lui dit-il. Toi qui, par tant de blessures, exhales ces accents plaintifs avec ton sang. Le buisson répondit. « Est-ce âme inconnue pour ce spectacle affreux que vous êtes venu? Vous voyez loin de moi tout mon feuillage épars. Assemblez à mes pieds cette dépouille triste. Je suis de la cité qui, pour Saint Jean-Baptiste, a quitté son premier père, le grand dieu Mars. Il la fera toujours gémir de cet outrage. » N'était qu'à la garder sur l'Arnaud son image, qui reste encore debout, dernier culte rendu. Les citoyens qui l'ont relevé et bâti, des cendres d'Attila l'auraient en vain sorti, et leur sublime effort aurait été perdu. Dans ma propre maison, las, je me suis pendu.